Le bénévolat, c'est un atout important pour plusieurs organismes communautaires à travers la province. Au sein de nos membres, c'est plus de 29 000 heures de bénévolat qui se fait annuellement. On s'arrête pour en parler aujourd'hui avec Nathan Tanguay de Convergence Action Bénévole. Ici Véronique Barra, bienvenue à Éco-Social. Bonjour Nathan.
Allô?
Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Ça va bien, merci. Fait qu'on est ensemble pour jaser de bénévolat puis de Convergence Action Bénévole. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi Convergence Action Bénévole?
Convergence Action Bénévole, c'est bien des choses, mais si je garde ça simple, c'est la centrale du bénévolat pour Bellechasse, Lévis et Lotbinière. Et ce, depuis quand même il y a longtemps, là, à Lévis du moins, depuis 50 ans.
Okay.
On a fêté notre 50e là, dans l'année qui vient de se terminer. On coordonne des services à la population et on soutient le bénévolat au sens large. Alors là, ça va varier, là, il va y avoir... le soutien à domicile qui se passe à Lévis. Alors là, c'est de prendre soin et d'aider les gens à garder leur domicile par différents moyens. Et il y a aussi mon poste à moi qui est le développement du bénévolat au sens large. Alors, on va participer là, à des comités, on va soutenir de quelconque façon qu'on peut. C'est sûr qu'au cœur de tous les services à la population, au cœur de tout ce qu'on fait à Convergence, il y a le bénévolat. T'sais, nous, c'est des bénévoles qui roulent les services et on ne pourrait pas faire rouler des services sans les bénévoles. Ils sont et elles sont absolument essentiels.
Puis ton rôle, dans le fond, là, tu disais au service à la population, est-ce que tu interviens auprès de la population, auprès des entreprises? Comment ça fonctionne?
Moi, je suis un peu à survol. Mon titre complet, c'est développement de l'action bénévole et soutien aux organisations. Alors, moi, je vais travailler à développer le bénévolat et j'y travaille par deux côtés. Souvent, je dis que j'ai deux côtés à ma pièce là, du développement de l'action bénévole. Il y a un côté que je vais travailler auprès du grand public et là, on va essayer de sensibiliser les gens au potentiel qu'ils peuvent faire, aux choses qu'ils peuvent faire, à c'est quoi la réalité du bénévolat, parce qu'il y a quand même beaucoup de perceptions du bénévolat qui sont pas toujours bien, qui représentent pas toujours bien la réalité.
Mm-hmm.
Aussi, je vais travailler auprès des organisations. Des fois, les organisations ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour s'adapter ou sinon, ils ont des questions à me poser. Mettons, comment qu'on fait pour bien retenir nos bénévoles? On a des petits enjeux, là. Les gens y embarquent, mais ils débarquent rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je vais aller voir ces organisations-là et on va intervenir ensemble. Mon but, c'est toujours que ça puisse être des belles opportunités pour les bénévoles. Si je travaille auprès de l'organisme, c'est pour qu'ensuite, la personne qui va y aller en tant que bénévole, elle se sente bien. Et ce que je dis toujours, c'est... moi, mon travail, c'est de m'arranger pour que les bénévoles puissent être bien et faire du bien.
Oui, bien, c'est important aussi quand tu as le goût de donner du temps dans une entreprise ou dans un organisme.
Bien, c'est ça. Sinon, ça ne dure pas. Si le bénévole n'est pas bien, il ou elle va quitter peu longtemps après. Mais aussi, généralement, si la personne n'a pas l'impression de faire du bien, bien, elle se demande un peu à quoi elle contribue.
Mm-hmm.
Pour moi, ça, c'est deux choses qui sont vraiment absolument essentiel au bénévolat. Mais là, on se devance un petit peu, là. C'est un sujet de passion pour moi, je m'excuse.
Mais non, c'est correct. C'est quoi ton premier bénévolat?
Moi, mon premier bénévolat, si je dirais là, officiel et formel, c'est sûr que moi, j'étais impliqué là, dans les églises. Là, je faisais des petites tâches, là, mais la première fois que je me suis comme inscrit et j'ai rempli un formulaire pour bénévole, c'était un festival à Alma, au lac Saint-Jean, un été.
Okay.
C'est mes amis qui m'ont dit « Hey! » Puis on surveille des jeux gonflables, puis on a des billets gratuits pour les shows en soirée. Fait que je dis, bon, OK, c'est cool.
Ouais.
C'est pas trop difficile, on surveille des jeux gonflables, puis on a des beaux spectacles. Je me souviens, il y avait plein de beaux groupes qui opèrent encore aujourd'hui. Et ça a été ça, un peu, mon premier contact officiel avec le bénévolat. Et depuis, ça a été bien des opportunités, là. Mais ça, je m'en rappelle quand même, parce que je me suis même pas rendu compte à l'époque que je faisais du bénévolat,
ben non,
pour utiliser le terme. Là. Moi, c'était juste, bon, on va faire de quoi avec nos amis, puis on donne quelques heures, puis on a de quoi en retour, c'est le fun.
Vraiment. J'ai le goût de te demander pourquoi les gens ils feraient pas de bénévolat, finalement, en général?
Pourquoi est-ce qu'une personne ne fait pas de bénévolat? Bien, la réponse qu'on va avoir, de base, et ça, c'est inévitable, là, c'est « j'ai pas le temps ». Ça, j'y crois pas. C'est pas, puis je dis pas ça avec la malice du tout, là. Pour ceux qui l'ont déjà dit, souvent on a l'impression de pas avoir du temps. La réalité, c'est qu'on fait toujours du temps pour les choses qu'on a à cœur.
Ouais.
Alors, pour moi, l'enjeu, c'est pas qu'il y a pas assez d'heures dans une journée. Parce que même s'il y aurait plus d'heures dans la journée, je pense que nos journées seraient tout autant remplies.
Oui.
Alors, pour moi, la vraie raison derrière, c'est la peur de l'engagement. Et ça, les études me le confirment en partie. On a peur d'être pris dans quelque chose. Là. Aujourd'hui, on a quand même des... Je pense qu'on a été sensibilisés récemment là, à l'importance de la famille, de mm-hmm. bien gérer notre temps. Avec l'arrivée du télétravail, il y en a beaucoup qui ont vu un peu... Ils ont récupéré des heures qu'il n'y avait pas et soudainement, c'est comme « wow, ok, hey, c'est une belle qualité de vie ». Et on ne veut pas sacrifier ça. On a bien crainte, et je pense avec raison, de s'engager dans quelque chose qui va venir saper notre temps, qui va venir qu'on a l'impression qu'il va être une perte de temps. Alors pour moi, c'est vraiment la raison derrière le « j'ai pas le temps ». D'abord, il y a la peur de l'engagement. Peur, c'était pas le bon terme, là, mais la réticence à s'engager, si je peux okay. dire ça comme ça. C'est sûr que les autres raisons qu'il va y avoir, c'est une déception passée. Quelqu'un qui s'est impliqué sur, par exemple, un conseil d'administration et que ça a mal viré va être très craintif avant de s'impliquer sur un autre CA. Avec raison, je comprends très bien. Mm-hmm. Et l'autre sur quoi je travaille bien souvent, c'est des organisations qui ne tiennent pas leurs promesses.
Okay.
Et ça, c'est répertorié dans les études. Par exemple, on dit à la personne, oui, 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 on a un horaire flexible, on a une belle équipe mm-hmm. dynamique, on va respecter ton temps, t'as besoin de pas être là une journée, pas de problème. OK, intéressant. Puis là, la personne s'embarque et finalement, c'est pas ça. Là, il y a une déception qui se vit et même il y a une perte, il y a un bris de confiance de la personne envers l'organisation et je dirais envers le bénévolat un peu plus au sens large aussi. Là. Alors, si je pourrais résumer, là, la réticence à s'engager et aussi les expériences passées vont amener les gens là, à pas nécessairement vouloir... Ben, pour ceux qui ne veulent pas s'impliquer, ça va être quand même des facteurs assez importants qui vont les motiver.
Comment on peut contourner ça, finalement, la peur pas la peur de l'engagement, mais la réticence mm-hmm. à s'engager, puis le fait que les gens ont eu des mauvaises expériences par le passé avec du bénévolat? Comment ça fonctionne avec les organismes? Est-ce que tu as des choses à leur proposer dans ce temps-là?
Oui, et je vais me permettre, je vais parler franchement. Là. Il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin de faire un grand ménage dans leur bénévolat, mm-hmm. Dans leur gestion des bénévoles, pour deux raisons. Il y en a une qui est un peu plus logistique, c'est que depuis, avec les années récentes, le bénévolat s'est complexifié, demande plus de coordination. Alors, quelque chose qui pouvait se faire sur le coin de la table auparavant, là, juste garder un petit horaire des bénévoles et c'est tout, c'est rendu beaucoup plus prenant. Ça demande plus de temps, ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'encadrement. Ça va être un effort qui va devoir être fait par les organismes. Il y en a plusieurs qui ont déjà commencé à le faire. Plusieurs okay. se sont rendus compte du besoin et le font déjà. D'autres, non. Alors, ça, c'est... Souvent, c'est un sujet que moi, je vais traiter quand je parle aux organismes. À quoi ça ressemble, vos processus un peu formels, particulièrement au niveau de l'intégration. Et là, ça vient répondre directement à ta question. Pour moi, là où le bas blesse, et souvent les organismes vont dire « on a besoin d'aide pour recruter », souvent je ne les crois pas, avant d'avoir gratté un peu. Et souvent, moi, je prends pour acquis que là où le bas blesse, c'est au niveau de l'intégration.
Okay.
Par exemple, un bénévole va démontrer de l'intérêt pour un organisme. Ça prend 2 semaines avant d'avoir un retour d'appel. Déjà là, oups, on a un défi là. Le bénévole, toute personne dans une relation se pose une question. Est-ce que je vais être bien traité par l'autre personne? Et dans le bénévolat, c'est la même chose. Le bénévole se demande est-ce que l'organisme va bien prendre soin de moi? Mm-hmm. Je suis prêt à offrir quelque chose, mais je veux quand même je veux qu'on prenne soin de moi en retour. Alors, tous les signes qui sont communiqués au niveau de l'intégration, ça va communiquer au bénévole si on va prendre soin de cette personne-là. Dans la formation, on compare le bénévolat un peu à une relation amoureuse. Les débuts du bénévolat comme des débuts d'une relation amoureuse sont absolument essentiels. Là. C'est là qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il est tout le temps comme ça? Comment ça va se passer? Souvent, la blague que je fais en formation, c'est il se rase, il ne nettoie pas l'évier après. Ça va-tu être ça jusqu'à la fin de ma vie? Je suis prêt à vivre avec ça? Il ronge ses ongles, jette ça derrière le divan, et pas sûr que je peux vivre avec ça. Ben, le bénévole se pose la même question. Et l'organisme aussi, en théorie, devrait se poser les mêmes questions. T'sais, le bénévole n'arrive pas à l'heure, je suis prêt à vivre avec ça. Mm-hmm. Ben, il y a des organisations que c'est pas grave. Hein? Puis il y en a d'autres que ça va être grave. Ouais. Il faut que ça soit communiqué. C'est une relation. D'avoir des processus bien délimités. Un, tout le monde sait où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est beaucoup plus facile de communiquer avec clarté, ce qui est beaucoup moins stressant. Ouais. Alors là, on peut dire, par exemple, moi, ce que je recherche, c'est ceci. Voici les conditions des bénévoles. Voici les limites aussi du rôle. Mm-hmm. Nous, par exemple, on a l'accompagnement transport à Convergence. Et ça, c'est d'amener... Les bénévoles amènent une personne de leur domicile jusqu'à un rendez-vous médical, okay. Attendent avec et font le retour. Alors ça, c'est quand même une tâche bénévole qui est quand même relativement complexe. Mais une chose qu'on a fait, qui nos bénévoles apprécient beaucoup, c'est qu'on a vraiment travaillé fort à délimiter leur rôle.
Okay.
Si une personne demande à aller à la pharmacie après, est-ce que ça fait partie de l'accompagnement de transport? Mm. Oui, non. S'il y a un accident, des assurances, tout ça, les bénévoles ont des questions et souvent les questions vont être extrêmement légitimes. Il faut que ça soit bien encadré pour pouvoir y répondre. D'où l'importance là, d'une gestion des bénévoles qui est quand même bien réfléchie.
Ouais.
Et stratégique aussi. Mais c'est sûr que c'est dans la communication de qui on est. Généralement, le conseil que je donne aux organisations, parce que veux pas, c'est quand même une rencontre généralement de 2 heures avec une organisation
okay,
pour parler de comment ils peuvent attirer d'autres bénévoles. Mais le conseil que je donne toujours, c'est soyez clair, exprimez les conditions du bénévolat. Soyez pas gênés. Là. Si vous avez besoin de 3 heures par semaine, vous avez besoin de 3 heures par semaine. Essayez pas d'exagérer et de dire que vous avez besoin d'une heure. Ça va juste créer des déceptions, ça ne marchera pas. Soyez clair, communiquez bien et parlez de l'impact que la personne va avoir. Hein, on ramène à être bien et faire du bien.
Ouais.
Montrez-leur comment vous allez vous assurer qu'ils vont être bien et faire du bien. Fait que dans leur impact, dans les conditions du bénévolat, tous les petits avantages que vous avez. Et l'avantage, ça peut être une belle équipe. Il y en a qui recherchent une relation sociale. Alors ça même s'il n'y a pas un gros budget, ça peut quand même être un bel avantage. T'sais, on dit, oh, on travaille fort pour vous aider à vous intégrer, on s'assure là, que ça se passe bien. Ça, c'est précieux quand même. Parce qu'il y en a beaucoup des bénévoles, ou des personnes même. Y a-tu quoi de pire que d'arriver dans un 5 à 7, puis on connaît personne?
Non, pas
et là, tout le monde se parle, tout le monde se connaît, on veut commencer à jaser avec quelqu'un, mais ça peut être difficile, là, selon notre personnalité, selon où ce qu'on est, le contexte. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui arrive de nouveau dans une organisation. Il y a une gang qui est déjà là. Mm-hmm. Comment vous allez aider la nouvelle personne à s'intégrer? C'est une question qui devrait au moins avoir été réfléchie.
Ouais.
Souvent, les réponses, ça va être une formation initiale, ça va être juste de l'accompagner lors des premiers bénévolats, de le présenter à l'équipe, ça va être du parrainage, on le connecte avec un bénévole plus mature pour dire, hey, puis là, ils développent une relation ensemble et soudainement, on peut faire une percée. Mais ça, c'est des petites stratégies là, qu'on peut mettre en place là, pour attirer des bénévoles. C'est de se montrer attirant aussi. Là.
Ouais.
Il y en a qui pensent beaucoup à ce qu'ils ont besoin comme bénévole, mais ils ne pensent pas à ce que le bénévole a besoin.
Oui, c'est sûr que... C'est moins dans les réflexes un petit peu.
Alors, on imagine sur Tinder, là, moi je recherche ça. OK, qu'est-ce que tu apportes dans la relation? Ben là, je sais pas, là. On swipera pas souvent à droite, hein, c'est ça?
Je pourrais
du bon côté. On swipera pas souvent du bon côté, mettons. Tu sais, il faut que la personne puisse montrer qu'est-ce. Tu sais, ça va dans les deux sens, la relation.
Oui, voilà. Je comprends. Fait que dans le fond, moins il y a de nuances, moins il y a de zones grises pour le bénévole, plus c'est clair. Plus sa tâche est claire, plus on a de risques finalement d'attirer des bénévoles puis de les garder. C'est ça que je comprends.
C'est sûr. C'est sûr que aussi, je parle de visibilité de l'organisation de façon stratégique. Bon, là, c'est un gros sujet, là, mais comment est-ce qu'on peut trouver l'organisation qui cherche des bénévoles? Si votre page web... Bien, déjà là, si la page web parle du fait que vous avez besoin de bénévoles, c'est déjà un bon début.
Ouais.
Mais tu sais, par exemple, si l'organisation... travail auprès des aînés, est-ce que dans tous les autres secteurs qui gravitent autour du sujet de les aînés, est-ce que l'organisation est présente? Est-ce que leur impact est connu? C'est pour ça, j'ai déjà reçu le commentaire disant, ah, mais tu sais, le recrutement pour les organismes qui travaillent dans le cancer, c'est facile, là, eux autres sont populaires, là, c'est un... D'un côté, ils n'ont pas tort, mais aussi, c'est parce que c'est connu.
Ouais.
On n'a pas besoin de chercher trop loin. Là. Les organisations qui travaillent dans ce domaine-là sont connues, alors que d'autres domaines, ça peut être moins connu, à moins d'être déjà dans le domaine. Alors, c'est sûr que la visibilité, mais là, on embarque dans des sujets de communication, là, et là, c'est un peu moins directement relié au bénévolat, mais il faut quand même qu'on puisse nous trouver quelque part. Ouais. J'étais justement en formation hier et quelqu'un me parlait du fait que, ouais, tu sais, on cherche des bénévoles, on cherche des bénévoles. OK, qu'est-ce que vous faites pour... Ah ben rien, parce qu'on veut pas attirer les mauvaises personnes.
Mmh. Ouais, attirera pas non plus les bonnes. Okay.
D'où l'importance de bien clarifier ses attentes, formaliser ses attentes en ce qui a trait aux bénévoles. Et qu'est-ce que vous voulez comme bénévole? C'est important de le savoir.
Ouais. Qu'est-ce que ça apporte aux gens ou aux organismes, dans le fond, le bénévolat?
À la base, le bénévolat, ça rend heureux. Et c'est un peu prétentieux de dire ça de même, là. C'est sûr que chaque bénévolat ne remplit pas le cœur de joie et de d'enthousiasme. Mais cela dit, les études le démontrent, les gestes altruistes contribuent au sentiment de bonheur. Et okay. Ça, c'est prouvé, là. Et c'est même au-delà de la corrélation. C'est pas juste que les gens heureux bénévoles et que le bénévolat rend heureux. C'est vraiment, il y a un impact de causation. Okay. Quand les gens font des gestes qui ne leur rapportent rien, ils font des gestes altruistes, ça les rend heureux. Et souvent, les bénévoles vont dire, moi, mon salaire, c'est la reconnaissance des usagers. Ben voilà, ils disent eux-mêmes sur le terrain et les études le confirment. Le bénévolat rend heureux. En plus de, si on pense un peu plus large là, que simplement de façon individuelle, quand je contribue à ma communauté locale, se porte mieux. Et donc, ceux qui y vivent, incluant moi, vont mieux se porter. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, était un petit peu perdu dans les dernières décennies, je dirais, cette idée-là. Là, on est beaucoup plus souvent dans la posture client plutôt que co-constructeur et contributeur. Ouais. Pour moi, le bénévolat, c'est une opportunité de retrouver ça un peu. On redevient un peu une partie d'une communauté qui contribue à quelque chose de plus grand que nous. Et c'est une des plus belles choses, je pense, dans le bénévolat. Alors, ça rend heureux. moi, une des choses qui m'enrage au plus haut point, là, c'est quand on parle de bénévolat et des statistiques, il y a toujours quelque part où ce que ça dit. Le bénévolat, c'est tant d'heures par année et ça représente tant d'argent là, au niveau du PIB. Et moi, je trouve ça tellement insultant parce que la beauté du bénévolat, c'est pas le travail qui est fait de façon gratuite. C'est le contact privilégié et unique avec les usagers. Dans nos rencontres initiales avec les bénévoles, on leur explique, oui, vous avez une tâche à faire, mais au-delà de la tâche, vous occupez un rôle absolument essentiel de contact humain. Et bien souvent, par exemple, si je repense à nos aînés du soutien à domicile, ils vont côtoyer des professionnels, ils vont côtoyer des intervenants, ils vont côtoyer des différentes personnes qui ont tous un agenda, si on veut, ou un rôle à jouer, je devrais dire. Mais des contacts juste d'humain à humain, ils en ont très peu, voire pas du tout. Alors, le bénévolat vient permettre cette rencontre-là, qui est de plus en plus rare aujourd'hui, je peux le dire. Là. Je lisais une étude par Bénévole Canada qui explorait l'idée de « est-ce qu'on a une crise du bénévolat? » Et l'idée qu'ils ont amenée, c'est qu'on n'a pas nécessairement une crise du bénévolat, on a une crise de la solitude depuis la pandémie. Et ça me fait beaucoup réfléchir, cette idée qu'on a une crise de la solitude, les gens ont de la difficulté à connecter, on a de la difficulté à connecter entre nous. Et je pense qu'il y a quand même une part de réalité de ça. C'est sûr qu'après ça, ça amène une crise dans le bénévolat. Mais j'aime cette idée que le facteur initial, c'est une crise de la solitude, les gens sont isolés. Ouais. C'est sûr que les gens isolés ne vont pas aller s'impliquer dans le bénévolat. Ça va un petit peu de soi. Même, il y en a beaucoup qui m'appellent, puis leur raison de faire du bénévolat, c'est justement de socialiser. Ils sont isolés. Alors là, c'est un peu, OK, je cherche quelque chose. Alors, pour moi, c'est ça la beauté. C'est ça que ça apporte à la société, si on veut, mais aussi aux gens. Le bénévolat, c'est pas le cheap labor, absolument pas.
Non.
Puis les organismes qui voient leurs bénévoles comme du cheap labor, souvent, ils ont bien de la misère à garder leurs bénévoles. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour ça que les gens vont s'impliquer.
Non, c'est ça. Fait que ça serait pas positif, dans le fond, pour les organismes non plus de le voir comme ça, puis de le promouvoir, parce que j'ose croire qu'il y a pas d'organisme qui promouvoit leur bénévolat de cette façon-là, mais de mettre ça de l'avant, dans le fond. C'est pas des ressources humaines gratuites, c'est ils offrent, dans le fond, une expérience plus humaine, une possibilité de contact finalement avec leurs membres à eux ou leurs clients à eux.
Pour moi, si on simplifie, oui, effectivement, on pourrait dire ça. C'est sûr qu'encore une fois, il ne faut pas non plus enlever du tout l'aspect de la tâche. Ce n'est pas juste des clubs sociaux.
Non.
Mais je pense que quand on focus plus sur la tâche que sur l'humain, on commence à dénaturer le bénévolat. On se réunit ensemble pour accomplir quelque chose qui contribue au bien commun, certainement. On ne fait pas juste s'amuser. Mais on est là d'abord pour justement là, cet aspect de bienveillance, cet aspect d'humanité, tout ça.
Pour avoir fait souvent du bénévolat aussi, je trouve que la tâche devient, oui, elle est présente puis elle est importante, mais elle devient presque secondaire quand tu te ramasses dans un endroit où l'ambiance est le fun, les gens sont plaisants, c'est le fun, t'es bien entouré. Fait que oui, tu fais ta tâche, mais elle est presque pas là finalement.
Ouais, elle n'est pas trop lente là. C'est presque une excuse qu'on a de livrer de la nourriture pour les dîners. T'sais, la vraie richesse, c'est le contact avec la personne, mm-hmm. que des fois, c'est la seule personne qu'elle voit dans sa journée. Et là, c'est un sourire, c'est un salut, c'est un bonjour, comment ça va? J'existe pour quelqu'un. Dans une ère où ce que l'anonymat est quand même répandu, là, j'existe pour quelqu'un et quelqu'un va se rendre compte si je ne suis pas là. Le bénévolat vient apporter ça.
Qu'est-ce qui est important pour les organismes à considérer pour l'attraction des bénévoles? Là, tu nous as parlé.
C'est la question à 100 000 piastres. Oui. Ça, si je vendais des conférences là, sur le recrutement de bénévoles, je serais riche, ça ne serait pas long.
Alors, on y va avec la question qui tue.
C'est... Comme j'ai mentionné tantôt, ça prend 2 heures là, d'accompagnement là, pour commencer à avoir une réponse parce que c'est très personnalisé. T'sais, un organisme qui a un budget, un grand budget, ce ne sera pas la même chose qu'un organisme à petit ou pas de budget, ça existe aussi. Puis aussi le rôle, t'sais. Est-ce qu'on recrute pour un CA ou est-ce qu'on recrute pour quelqu'un qui est à la réception de l'organisme et qui répond au téléphone? Tout va être personnalisé.
Okay.
C'est sûr que moi, ce que je dis dans nos formations, c'est qu'avant de se poser la question « comment », donc, comment recruter plus de bénévoles? On doit se poser la question qui? Qui est-ce qu'on recrute? Qui est-ce que nous sommes comme organisation? Parce que le bénévolat, c'est une relation, on se le rappelle. Alors, le qui est bien plus important que le comment. Qui est-ce que je recherche dans cette relation-là va être bien plus important que sur quel site de rencontre je publie ma candidature. Ça, c'est un détail plus technique. Est-ce qu'on fait des vidéos? Est-ce qu'on fait plutôt des images? Est-ce qu'on fait des communiqués de presse? Ça, pour moi, c'est tout secondaire à une connaissance profonde, une conviction profonde de qui est-ce qu'on est et qui est-ce qu'on recherche. Parce qu'une fois qu'on sait ça, on va être capable de cibler. Si je cherche quelqu'un sur mon CA, ben, je vais chercher des places qui sont plus pertinentes pour un CA. Peut-être que je vais demander à d'autres organisations, il y en a-tu des gens sur votre CA qui cherchent un peu d'autres implications, qui cherchent à étendre un peu ça. Ou sinon, je peux demander, par exemple... au regroupement, est-ce que vous avez des choses mises en place là, pour faire connecter les besoins des CA avec, par exemple, les jeunes professionnels, avec les entreprises, avec tout ça. Si je cherche quelqu'un à la réception, bien souvent, je vais demander à mes bénévoles, est-ce que vous connaissez quelqu'un que ça tenterait 2 heures par semaine de venir gérer un peu les appels dans le bureau? Mais là, vous voyez, c'est extrêmement contextualisé. Il n'y a pas de réponse globale qu'on peut donner. À part de savoir qui on est avant tout.
Est-ce que les jeunes font du bénévolat? J'ai comme en tête, puis là on en parlait un petit peu tantôt, tu sais que dans les 10 dernières années, le bénévolat a changé. Est-ce que tu constates qu'il y a des jeunes qui s'impliquent ou qui ont le goût de s'impliquer dans des organismes?
Est-ce que les jeunes font du bénévolat? Bien, c'est sûr que la première question, c'est qui les jeunes? Alors, on se rappelle, pendant la pandémie, les jeunes, c'était les 64 ans et moins.
peut-être pas.
fait que c'est sûr que... C'est ça. Ça dépend toujours c'est qui les jeunes, mais c'est sûr que la réponse, c'est oui. On a des histoires de... Ben, on les voit, on va passer ça dans la nouvelle. Ah, les jeunes de telle école primaire ont fait des cartes pour la résidence pour aînés. Bien... D'accord, c'est un travail scolaire, là, mais c'est un bénévolat à l'image de la personne. On s'entend, un enfant de 8 ans ne va pas aller s'inscrire dans un organisme. C'est impossible. À sa façon, il a contribué à quelque chose qui est plus grand que lui. Il a mis un contact humain. Pour moi, on est dans le bénévolat. Là. Même si c'est un travail scolaire, c'est pas grave. Fait que, ben oui, il y a ça. Beaucoup dans le sport et le coaching. Qui n'a pas un neveu, une nièce, un cousin qui, à la fin de son secondaire, a commencé à coacher... les secondaires 1-2 ou peut-être même à l'école primaire, dépendant du contexte. Ça va être dans les loisirs. Et ça, c'est tout à fait naturel. Ça va avec leur disponibilité. Souvent, ces activités-là ont lieu le soir ou pendant que les jeunes sont plus disponibles. Alors, il y a ça. Mais aussi, si on sort un peu plus dans les bénévolats plus modernes, il y en a plusieurs qui vont devenir, par exemple, modérateurs de forums en ligne.
OK.
Si, par exemple, quelqu'un aime bien un tel intérêt, là, on peut parler d'un jeu vidéo, il pourra embarquer, devenir modérateur d'un forum, et là, il va mettre des heures à coordonner une communauté.
Okay.
Ben ça, c'est pas du bénévolat, je sais pas qu'est-ce que c'est.
Ouais.
même s'il n'y a pas d'organisation qui est derrière, il n'y a pas d'OBNL qui l'encadre, il est quand même en train d'aider dans un contexte structuré. Et c'est très intéressant. Puis ça, il y en a quand même beaucoup. Sinon, il y en a beaucoup qui vont faire de l'édition de vidéos. Ils vont explorer un peu les choses qu'ils peuvent faire potentiellement, que ce soit encadré ou non. Et bien souvent, ils ne seront pas payés pour. Il y en a plein là, dans les vidéos. Maintenant, on parle des réseaux sociaux vidéo, pour ne pas les nommer. Bien, il y en a plein qui explorent ça puis qui ensuite peuvent le mettre à profit. Par exemple, la nièce de quelqu'un dans un organisme qui dit « Ah ouais, j'ai vu que tu faisais des belles vidéos. Pourrais-tu nous en faire une pour notre organisme? » Bien, ouais. Ça arrive. Ça arrive. Puis la personne, puis souvent, le jeune va embarquer. Souvent, on a juste besoin de trouver une façon de les inviter. Parce que c'est sûr que quand on parle de jeunes, pour moi, mettons, on parle de la tranche là, 14 à 25, si on veut. Là. C'est sûr que c'est bien rare qu'ils vont défoncer une porte en disant « Je veux m'impliquer, tassez-vous. c'est bien normal. Et bien souvent, ils ne seront pas reçus. Ça, c'est un de mes plus durs référencements quand j'ai une personne mineure qui appelle pour faire du bénévolat. Parce que là, okay. Les organismes, ils ne sont pas assez flexibles. Ils ont de la misère à trouver une place pour l'accueillir. Et là, il faut faire signer les parents. Puis là, OK. Fait que là, ils sont souvent très hésitants. Alors, bien, à un moment donné, ils comprennent le message.
Ouais,
si on veut pas de moi, j'irai pas. C'est pas compliqué. Fait que la place qu'on fait aux jeunes, c'est sûr que c'est en conflit avec la réalité actuelle du bénévolat, ou est-ce que c'est un peu le terme là, qu'on utilise, c'est la professionnalisation du bénévolat.
Okay.
Ou est-ce que ça devait être plus structuré, plus encadré, on cherche plus... Alors qu'avant, c'était... dans mes formations, j'utilise toujours le nom Jean-Gilles. Jean-Gilles débarque, il a le goût de s'impliquer. Ben, ah ouais, Jean-Gilles, viens-t'en, on va faire une livraison, let's go. Souvent, ça se passait comme ça. Maintenant, c'est plus tout ça. Là. Ah, ben, OK, parfait, on va faire une entrevue d'accueil, on va faire une vérification des antécédents judiciaires, on va s'assurer que tu es une bonne personne, on va faire un processus d'accueil. On ne peut rien y faire. Là. C'est la réalité actuelle, on n'a pas le choix. Pour le meilleur et pour le pire. Il y a des avantages, des inconvénients. Mais ça, le bénévolat des jeunes, souvent, c'est en conflit avec cette professionnalisation-là. Ils sont plus en exploration. Mais, effectivement, on en voit partout. Ça va beaucoup se passer par Internet. Qu'on le voit, mais pas uniquement là. Nous, beaucoup, on a des jeunes qui s'impliquent à notre service de télécoute. Alors ça, c'est une ligne d'écoute que tout le monde peut appeler pour juste jaser. Et la plupart de nos bénévoles, c'est des étudiants et étudiantes.
Okay.
Ils doivent faire un nombre d'heures de stage. Alors, s'inscrivent à Télécoute, qui est en santé mentale, et vont s'impliquer. Et il y en a plusieurs qui vont rester un petit peu après. Généralement, leur horaire ne leur permettra pas de s'impliquer à long terme. Mais plusieurs qui ont vécu une expérience favorable, même après leur stage, vont rester au moins connectés à l'organisation, si pas directement impliqués.
OK.
Alors, il y a des opportunités. Souvent, c'est la notion engagement qui va freiner les jeunes. On l'a dit tantôt, ça freine pas mal tout le monde, mm-hmm. particulièrement les jeunes, parce que souvent, dans la tranche 18 à 25, moi, si ça dépassait l'été prochain, je ne savais pas où ce que je serais.
Oui, c'est vrai.
Tu sais, les études, ça change, les déménagements, les si, les emplois. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui s'en vient dans 6 mois. Ouais. Alors là, de dire, OK, ben il faudrait que tu t'inscris. Il y a une formation, là, la formation va débuter dans 3 mois. La formation, elle va durer tel nombre de semaines. Ben là, le jeune, on l'a perdu. Il ne sait même pas où ce qu'il va être dans 3 mois, bien souvent. C'est tout à fait normal, c'est l'étape de vie.
Ben oui.
Alors, tout ce qui va être sport et loisirs sont souvent très, 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 très impliqués. Souvent, c'est eux autres qui rôlent la chose même. Là. Même chose pour les... Si on parle des jeunes familles, ben, les parents vont suivre leurs enfants. S'impliquer à la garderie, s'impliquer à l'école, s'impliquer dans les sports. C'est toujours dans le contexte de la personne qu'elle va s'impliquer.
Puis ça fait un petit peu aussi avec leur horaire de vie, tu sais, dans le sens que les jeunes, le jour, ben, sont à l'école. Si l'organisme est ouvert... De 8h30 à 4h30, ben, ils sont à l'école pendant ce temps-là. Fait que, ils ne peuvent pas s'impliquer non plus dans un organisme qui n'est pas 24 heures ou qui n'est pas ouvert de soir. T'sais.
Voilà. Et des organismes qui sont ouverts de soir, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Ouais.
c'est une des questions que je me pose. Est-ce que ça va être appelé à changer un jour? C'est sûr qu'il n'y a personne qui... dans la situation actuelle, il n'y a pas grand monde qui veut ça. Des employés, mettons, c'est une résistance de la permanence. Mais je me demande si ça ne sera pas quelque chose qui va arriver un jour, là.
Ouais, ou
à
d'offrir
suivre.
des offres de bénévolat, tu sais, plus ponctuelles quand
Oui.
il y a des événements particuliers ou quoi que ce soit à la fin de semaine,
Oui, je pense qu'il y a une grande. On dit souvent aux organismes, il faut que vous soyez flexibles.
là.
Mais
Ouais.
là, en ce moment, être flexible, c'est un peu de la gestion d'horaire. Je pense qu'il va falloir même repenser plus profondément que ça, l'implication bénévole, que ça soit bâti de manière à accommoder la flexibilité. Là, en ce moment, souvent, on a pris quelque chose qui n'était pas flexible, puis on l'a forcé à être flexible, avec succès mitigé. Je pense qu'il va falloir repenser comment les choses se font pour justement que la flexibilité puisse être intégrée à l'implication bénévole, dans le sens qu'on peut inviter des gens à la dernière seconde. Souvent, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, là. On veut maintenir le service, on veut. Eh bien, ça, c'est sûr que ça dépend pas juste des organismes. T'sais, souvent, il y a du financement qui est rattaché à ça, on est un peu coincé là, dans la réalité de tout ça. Et en plus, souvent, on est appelé à rouler avec effectifs réduits. Alors, c'est bien dur d'innover quand on est déjà à effectifs réduits, là. On est déjà en train d'éteindre des feux, bien souvent, on n'a pas le temps de penser à la prochaine étape et d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Cela dit, il y en a plusieurs qui le font. C'est pas parce que c'est difficile qu'il n'y a personne qui le fait.
Non, c'est sûr,
Et
parce
une belle partie de mon emploi, c'est justement d'aller voir ces gens-là qui font des innovations, d'aller cogner à leur porte, puis dire, on pourrait-tu parler de bénévolat pendant une heure ou deux, et ensuite de leur partager à d'autres. Fait que
Ouais.
c'est.
Tantôt, on se parlait des dernières années. À quoi ça ressemblait le bénévolat il y a quelques années?
C'est très drôle parce qu'on a un livre à Convergence qui a été écrit pour le 25 ans de Convergence. Et ça parle des 20 premières années, là, bien sûr. C'est un historien qui a écrit ça. C'est une belle lecture. Un moment donné, ça parle que dans les années 70, les gens dans l'organisme, je pense que c'était tous des bénévoles, dépendant de l'année, s'inquiétaient beaucoup sur l'avenir du bénévolat suite à la Révolution tranquille et les changements de société, là, tu sais, la laïcisation de tout ça, là. Les gens se disaient, hey, que va devenir le bénévolat? Et c'est drôle, j'entends les mêmes commentaires aujourd'hui, en 2024, 50 ans plus tard. T'sais, les gens sont plus religieux, la bénévolat, c'est plus très à la mode. Alors, ça, je trouve ça comique, je trouve ça assez cocasse. C'est sûr que il y a un aspect qui a changé qu'on pourrait garder simple, c'est alors qu'avant, bien souvent, c'était un devoir, ou du moins considéré comme un devoir. Aujourd'hui, le bénévolat est un loisir. Et là, comprenez-moi bien, là, c'est un loisir dans le sens que c'est quelque chose que les gens font dans leur temps libre. C'est un loisir qui est constructif, qui est plus grand que soi. Je ne veux pas réduire l'impact du bénévolat en disant ça, mais par sa nature, c'est quelque chose que les gens vont faire pendant leur temps libre. Et ça, c'est sûr que c'est un changement majeur entre le bénévolat de avant et le bénévolat d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr que ça va changer. La formalité, la formalisation, si je recule de 20, 20 ans, 30 ans, c'était beaucoup moins formel pour différentes raisons. Les assurances, notamment. C'est bien plate à dire, mais tu sais, par exemple, d'aider à déménager, il n'y a aucun organisme qui peut faire ça parce qu'il n'y a aucun assureur qui veut les couvrir.
Ouais, je comprends.
Et c'est bien dommage parce que c'est un besoin. On en
Ben
parle à chaque été, on en parle, puis les organismes sont bien désolés. On aimerait bien intervenir là-dessus, mais on est pris parce que si un bénévole se blesse, ben
ouais.
on n'est pas assurable. Et là, ben la personne est prise. Personne veut ça. Alors ça, c'est sûr que c'est un défi. On est sensibilisé à ça. C'est une belle chose. On ne veut pas prendre de
Ouais.
risques, mais en même temps, ça crée un trou de service. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est différent du bénévolat il y a quelques années.
Qu'est-ce qui est différent d'une personne à la retraite qui fait du bénévolat versus un jeune qui fait du bénévolat? On en a un petit peu parlé tantôt quand on parlait d'horaire, là, de disponibilité, mais t'as-tu d'autres exemples?
Oui, à la base, les motivations. Puis là, on parle de façon générale, hein, tu sais, chaque individu est différent, on se comprend. Mais les motivations, à la base, une personne jeune va chercher ce que ça lui rapporte. Puis pas dans un sens égoïste, là, c'est pas ça que je veux dire du tout, là, mais dans le sens que, par exemple, un jeune qui s'implique sur un CA, bien souvent, c'est pour avoir de l'expérience. Puis par la bande, il va aider, il va contribuer à quelque chose. Je ne minimise pas, je suis pas en train de dire qu'il y a un bénévolat pur et un bénévolat
Ouais,
impur.
je comprends.
Certaines personnes vont dire ça. Moi, pas du tout. Une personne qui est plus jeune, il est là, il est en train de construire sa vie. Alors, il va chercher comment est-ce que cette implication-là va m'aider à construire ma vie. Tu sais, ça va être de bâtir un réseau, ça va être d'acquérir de l'expérience, ça va être de développer ses compétences de leadership, par exemple, si on parle de coaching dans un sport, d'aider mon enfant à bien avoir un beau sport qui puisse bien s'épanouir. Ça, c'est sûr que ça va être la motivation de jeunes. Et si on parle de quelqu'un qui est à la retraite, Ben, je dirais que la compréhension d'un avantage personnel souvent a changé. Et on pourrait même dire que même les personnes à la retraite font ça pour un avantage personnel, font ça pour socialiser.
Ouais.
Mais souvent, et ça c'est un peu plus une question de psychologie, plus qu'on avance en âge, plus que notre idée de ma communauté à moi va s'élargir. Alors, j'explique tout ça.
Ben, c'est un groupe.
Si je pourrais l'expliquer rapidement, là, tu sais, un enfant, c'est prenez soin de moi. Ado, c'est je prends soin de moi. Ensuite, parents, ben, je prends soin de moi et mes enfants. Grands-parents, ben, le cercle s'élargit. Et souvent, quelqu'un qui va être rendu, mettons, dans la soixantaine, 70, va comprendre que prendre soin de ma communauté locale, ça égale prendre soin de moi, dans un sens. T'sais, si je contribue à ma communauté se porte bien, ben, ceux qui vivent dans la communauté vont bien se porter aussi, de façon générale. Alors, c'est quand même pour avantage personnel. Cela dit, ça va pas s'exprimer de la même manière et je suis pas sûr qu'il le dirait de cette façon-là non plus.
Je comprends.
Mais tu sais, à la base, on est tous humains, là. Tu sais,
Ben oui.
à la base, les motivations vont être là. C'est sûr que ça va dépendre aussi du type de bénévolat, les motivations. Aussi, une des parties de mon mandat, c'est de faire du référencement bénévole. Alors, en faisant du référencement, c'est des gens qui appellent ou qui écrivent en disant, je vais faire du bénévolat, je ne sais pas comment faire. Ça arrive quand même souvent. C'est pas
OK.
si facile que ça de trouver une place où s'impliquer. Alors, je les aide. Ça fait partie de ce que je fais. Et je leur demande toujours pourquoi. Pourquoi ils veulent s'impliquer. Ça m'aide beaucoup aussi à savoir où les référer. Ce que je vais entendre le plus souvent, c'est je veux socialiser. Je viens d'arriver dans la région, je connais personne, je veux connecter avec d'autres personnes. D'autres vont dire, ah, j'ai reçu beaucoup, fait que je veux redonner.
OK.
Ou sinon, il y en a beaucoup qui se cherchent un peu aussi suite à un événement marquant. Par exemple, un accident au travail peut porter un autre travail. Un deuil dans la famille proche. Là, on cherche à se retrouver et je pense qu'il y a un désir de reconnecter avec quelque chose d'un peu plus humain, d'où le désir de faire du bénévolat. Alors ça peut être des motivations qui vont amener une personne à s'impliquer. C'est sûr qu'à la base, si on parle des études et des statistiques, ce qu'on va dire, c'est les premières raisons, c'est la socialisation et le plaisir. Et ça, c'est tout à fait normal,
Ben
c'est
oui.
ce qui nous fait rouler en tant qu'être humain. Et après ça, il va avoir le désir de contribuer, le désir de faire une différence, la cause me touche personnellement. Toutes ces raisons-là vont venir à la suite de avoir du plaisir et faire du social.
Oui, dans le fond, si on regarde en général, tu sais, il n'y a pas tant de différence finalement entre une personne retraitée puis un jeune qui fait du bénévolat, si on considère que les deux, ils vont avec des motivations qui leur sont un petit peu plus personnelles, mettons.
Moi, c'est ce que je pense. Si on gratte un peu, là, si on pouvait gratter un peu de façon objective, on retrouverait que, dans le fond, c'est pas si différent que ça, là. On veut s'épanouir personnellement en contribuant à quelque chose qui est plus grand que nous. On n'a pas juste le goût d'aller jouer au golf ou
Ouais.
d'écouter un film, on a le goût quand même d'être actif, là, et de pouvoir dire à la fin de la journée, hey, j'ai fait de quoi qui a fait du bien à d'autres personnes. Wow, ça a été une belle journée. Je pense à la base, effectivement, il n'y a pas tant de différence que ça, en termes des motivations, du moins.
On a parlé tantôt un peu du bénévolat il y a quelques années. Tu dirais que ça ressemble à quoi le bénévolat aujourd'hui?
Le bénévolat d'aujourd'hui, c'est de toutes les façons, et je dirais un peu similaire comme avant, il y a de la place pour tout. Il y en a de toutes les façons de pouvoir faire du bénévolat. Alors là, par exemple, un organisme qui s'appelle Bénévole d'expertise. Et eux autres, ils vont aller chercher des professionnels. Alors, on peut parler, par exemple, de comptables, on peut parler de différents professionnels qui vont aller partager leur expertise avec un organisme de bienfaisance. C'est très apprécié, évidemment, de la part des
Oui.
organismes, parce que c'est du bénévolat. Et c'est très apprécié de la part des professionnels qui ont l'impression, justement, de contribuer avec leur expertise. Eux, spécialement, sont qualifiés pour apporter quelque chose de bien, dans les organisations. Alors, ça, c'est un exemple, le bénévole d'expertise. L'événementiel. Alors ça, c'est bien sûr le festival western de quelque chose.
Oui.
Ben, il y a plein de bénévoles partout. Ben, ça, c'est des gens qui ont à cœur l'événement, qui aiment bien le sujet de l'événement et qui ont le goût d'y contribuer. Des fois, c'est pour les avantages. Hein. J'aime ça, le t-shirt, ça me donne une passe. Alors, comme moi au début, effectivement, mon premier bénévolat, c'était ça, dans l'événementiel, de façon bien accidentelle. Et c'est sûr qu'il y a tout ce qui est organismes communautaires, sport, loisirs, les écoles, les bibliothèques. Il y a aussi le bénévolat corporatif il y en a beaucoup maintenant des entreprises qui explorent d'autres façons de faire. Pendant un bout, là, le bénévolat corporatif, ça se résumait à on va aller racler des feuilles pendant une demi-journée, on prend une photo et on retourne chez nous. Ce que, en tout cas, ça vaut ce que ça vaut. C'est le fun pour la visibilité.
Ouais.
Mais il y a plusieurs entreprises et organisations qui cherchent à faire un petit peu autrement, avoir un contact un peu plus réel, justement, mais quand même qui respectent, eux, leurs besoins. Ils ont quand même des besoins aussi, là. Ils peuvent pas. Ils ont des limites à ce qu'ils peuvent faire. Mais je reçois quand même à l'occasion des appels de ce genre-là. Hein, on aimerait ça s'impliquer. On ne veut pas juste faire une demi-journée. Comment qu'on pourrait faire ça? Et là, c'est ça, c'est de la construction sur mesure. On bâtit quelque chose. On en a un exemple chez nous. Il y a une organisation qui envoie deux de leurs employés à chaque semaine pour livrer de la papote roulante sur l'heure du midi.
Okay.
Et ça, c'est quand même une entente qui continue là, depuis au moins un an, depuis plus d'un an. Et ça a vraiment été un beau succès. Là. Les employés revenaient et étaient vraiment touchés du contact humain qu'il y avait. On entendait des commentaires comme « Ah, je pensais pas que ça se vivait comme ça. Je pensais pas que les gens... » Tu sais, que ça existait, mettons, à Lévis.
Ouais.
Et pourtant, la poitrine roulante, c'est pas la grosse misère. Là. C'est des gens bien normaux qui vivent encore dans leur maison. Mais ça a été un contact réel avec quelque chose de réel. Et souvent, ça les touche. Alors ça, c'est sûr qu'on encourage de ce côté-là, mais ça, c'est une forme de bénévolat d'aujourd'hui. Les conseils d'administration, bien sûr, tout ce qui est organisme a besoin d'un conseil, c'est des bénévoles. Ensuite, il y a le bénévolat virtuel, qui est plus moderne un peu, mais il y en avait quand même avant. Avant, ça se faisait par téléphone. Hein, les appels que les gens faisaient pour un parti politique, ben, c'est un bénévolat virtuel, si on veut, là. Presque. Mais par exemple, j'ai toujours en tête l'application qui était sortie il y a quelques années, où est-ce qu'une personne malvoyante ou non-voyante pouvait, avec son cellulaire, se connecter à l'application et la caméra se branchait et montrait, par exemple, l'étiquette d'aliments qu'elle n'arrivait pas à lire.
Okay.
Et là, il y a quelqu'un à l'autre bout qui était connecté automatiquement via l'application pour lui lire à voix haute ce qui était sur l'emballage.
Okay.
Alors ça, je trouve ça quand même très intéressant.
Vraiment.
Ça a vraiment fait des vagues quand ça a sorti. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là, ben peut-être que c'est pas appelé à rester, là, mais l'idée de ces micro-implications-là, très ponctuelles, ça a duré quelques secondes à peine comme bénévolat, ça, je pense qu'il y a quand même plusieurs potentiels, plusieurs opportunités de ce côté-là. On a parlé tantôt de modération de forum. Est-ce que c'est du bénévolat? Bonne question pour les académiques, mais il y en a qui développent de façon gratuite des... Si on parle de jeux vidéo, ils vont développer des ajouts à un jeu vidéo, par exemple, des campagnes complètes en addition et qui sont faites de façon gratuite, aucun salaire, c'est juste par passion. Et ensuite, ils redonnent ça à la communauté.
Okay.
C'est sûr, c'est pas encadré par un organisme, il n'y a pas de tout ça, mais je trouve que la personne contribue quand même à quelque chose de plus grand qu'elle, de façon gratuite. Bon, on pourra s'ostiner sur la définition de bénévolat pendant des heures et des heures, là, mais pour moi, c'est, à la base, c'est quand même quelque chose de beau et gratuit.
Ben oui.
Et quand même, c'est dans l'hypermoderne aussi, là. Mais sinon, il y en a plein qui développent des applications aussi. Si on sort des jeux vidéo, des applications d'utilité générale qui sont ensuite rendues disponibles gratuitement en ligne pour le bien de tous. Ça, il y en a plusieurs. Là. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. C'est une belle façon de contribuer. Et finalement, il y a quand même beaucoup de... Et pour peut-être ton dernier point là, sur le bénévolat d'aujourd'hui, on parle de la délocalisation du bénévolat. L'application que je parlais tantôt, ben c'est partout dans le monde, ou du moins partout dans le pays, j'imagine, là, ou avec la personne, le groupe linguistique, pour qu'on se comprenne. Mais je pense qu'il y a une réaction à ça aussi, à la délocalisation. Il y en a que leur bénévolat va se passer de façon très, 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 très locale.
Okay.
Ils vont s'impliquer dans leur quartier. Et ça, c'est quelque chose qui revient, alors que ça existait avant. Ça revient. Justement, je pense que c'est un peu en réaction là, au fait qu'on n'est plus connecté à notre endroit géographique. Il y en a qui vont décider de s'impliquer de façon bénévole, justement, dans leur quartier. Alors ça, c'est aussi une façon de bénévoler qu'on voit aujourd'hui, là, qui est un peu moins structurée, qui est peut-être un peu plus du côté de la participation citoyenne d'autres domaines, mais qui est quand même généralement un don gratuit de son temps.
Okay.
On pourrait l'inclure sous le parapluie du bénévolat sans problème.
C'est intéressant aussi parce que dans l'éventail de bénévolat que tu nous as parlé, il y a quand même des possibilités, tu sais, avec le bénévolat virtuel ou quoi que ce soit, il y a la possibilité, je trouve, de rejoindre une tranche de population qui n'ont pas nécessairement envie de sortir de la maison pour bénévoler, mais qui sont prêts quand même à donner du temps. Fait qu'on, tu peux les rejoindre aussi de cette façon-là. Là.
Nous, tu l'écoutes, nos écoutants et nos écoutantes sont à la maison.
Oui.
Depuis la pandémie, là, il n'y a plus personne qui va revenir, presque. Il n'y a plus personne qui va revenir dans nos bureaux. Mais cela dit, ça peut peut-être. On peut en profiter pour parler justement là, des enjeux modernes versus les nouvelles façons de faire et la réalité du bénévolat. Avec la pandémie, ben, tout est devenu virtuel. Il y a quand même une formation de 18 heures pour être écoutant sur la ligne d'écoute. Là, on parle de plein d'affaires. Et ça, c'était devenu virtuel. Suite au virage virtuel, on a commencé à avoir un enjeu que les bénévoles duraient moins longtemps. Souvent, il fallait même leur courir après un peu là, pour qu'ils finissent leur stage. Venaient pas aux activités de reconnaissance. La connexion était clairement pas là. Alors là, on a réfléchi beaucoup, là. La question qui m'a été posée, en fait, par la directrice du service, c'était comment est-ce que je peux faire pour les attirer pour nos activités de reconnaissance? Alors, on est parti de là. On a réfléchi beaucoup. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'était de reprendre des formations en présentiel. Ensuite, de continuer le bénévolat virtuel, bien sûr. Ça, les gens l'apprécient beaucoup trop, là. Même on a des gens qui habitent très, très loin qui ne pourraient pas s'impliquer si on ramenait ça en présentiel. Personne ne veut ça. Mais de faire la formation en présentiel, ça a eu l'impact que les gens se rencontraient, jasaient un peu entre eux et ensuite, souvent, allaient faire de l'écoute en dyade. Alors là, vont, avec l'amitié qui s'est créée pendant les 18 heures de formation, vont souvent faire leur bénévolat ensemble. Alors que c'est un bénévolat qui est quand même assez individuel, on est tout seul, mais vont pouvoir se texter en attendant des appels si ça arrive, un trou là, entre deux appels. Et ça a quand même eu un beau succès, sans dire que c'était miraculeux. On a quand même vu là, des statistiques qui étaient favorables de ce côté-là. Alors ça, pour moi, ça montre un peu les enjeux. T'sais. On parle de flexibilité, on parle de télé-bénévolat, on parle de tout ça. On parle aussi du besoin de connexion humaine, qui est quand même toujours là et bien réel. Alors là, c'est en innovant, ben, on essaie des choses et on voit ce qui colle et on réfléchit. Je pense qu'il faut comme réfléchir à. Il faut équilibrer un peu ces deux angles-là. Je pense que ça exprime bien. Je l'aime bien comme exemple parce que je trouve que ça le représente bien. La connexion humaine versus l'aspect pratique. Parce que humanité et efficacité, ça rime en français, mais ça rime pas dans l'action.
Non, c'est vrai.
Humanité et efficacité. Mais comment est-ce qu'on fait pour les conjuguer ensemble pour que ça s'arrime? Ça, c'est pas facile toujours, là. Ça demande quand même des réflexions et des tests qui souvent peuvent être faits en parlant avec les bénévoles aussi. On se rappelle, là, c'est des personnes qui savent leur réalité. Des fois, elles autres ont des très bonnes idées aussi.
C'est le fun de les écouter aussi dans ce qu'ils veulent puis dans ce qu'ils ont besoin. Si je libère ton imagination là, puis que je te demande à quoi ça va ressembler le bénévolat dans les prochaines années,
On parle dans 5 ans, 100 ans?
on va dire 5 ans.
Soyons un peu plus réservés, ça marche. Moi, je lis plein d'études là-dessus et tout le monde a des idées bien intéressantes. Ça part dans tous les sens, tous les côtés. Selon ce que moi j'observe, d'après moi, on va voir deux tendances se dessiner. Les formes de bénévolat qui sont un peu plus focusées sur la tâche. Et là, si je reprends mon application de tantôt, c'est individuel, c'est une tâche, mais ça a un impact réel et c'est très court dans le temps. Alors là, on pourrait par exemple parler de. Une personne jeune, justement, qui prend des photos pour un organisme. Ben, ça va être très court dans le temps, c'est zéro engagement, c'est très ponctuel. Ça, je pense qu'on va voir une lignée de bénévolats qui vont se dessiner de ce côté-là. Et de l'autre côté, je pense qu'on va voir l'inverse. Un peu une réaction à ça, si on retouche là, aux idées de crise de la solitude et tout ça. Un bénévolat qui va être extrêmement social. Et il y a un très beau reportage qui a été fait sur le village de Saint-Camille, dans le coin de l'Estrie. Puis ça parlait comment que. L'innovation sociale, l'implication sociale, le bénévolat, souvent son point initial, c'est un groupe de citoyens engagés qui se rencontrent pour jaser de tout et de rien et de leur société. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent contribuer. Et c'est une relation sociale qui est moteur de bénévolat. Et ça, on commence à en avoir beaucoup. C'est sûr que ce n'est pas un engagement, mettons, hiérarchique, mais plutôt. Un cercle de partage qui devient moteur d'implication. Et ça, je pense que ça va être l'autre aspect de bénévolat qu'on va voir, qui est très peu encadré, qui serait très difficile à encadrer parce que très en ébullition, dépend énormément des membres de la communauté qui forment ce groupe-là, très ouverte, très basée sur l'humain. Et ça, je pense que ça va être, si mettons, je parle des deux portraits types de bénévolat, c'est sûr que moi, je pense un peu plus au communautaire. Je pense que le le bénévolat sportif ou loisir est un peu moins appelé à changer, à moins que les règles de jeu changent. Mais le fonctionnement est quand même bien rodé, là. Mm-hmm. Et la crise du bénévolat se vit un peu moins aussi dans le sportif. Pas okay. pour dire que c'est le monde de licorne. Mais bien sûr, parce que les parents veulent s'impliquer pour le bien de leur enfant, souvent, il y a un moteur assez naturel. Dans le communautaire, c'est pas le cas. Souvent, les usagers ne peuvent pas être les bénévoles. Alors là, il y a comme un défi, là. Mais je pense qu'on va voir justement, en réaction à ce défi-là, deux portraits types. Okay. Si je répète, là, les tâches hyper focus, hyper court terme, et les communautés qui sont beaucoup plus éclatées, beaucoup plus... qui vont être très difficiles à, à écrire des statistiques et des ouais. rapports, parce que ça va être beaucoup plus ouvert. Ça va être un peu à l'image de ce qu'on pouvait voir avant, là, sans encadrement formel. Mm-hmm. Mais je pense qu'on va voir des organismes venir au soutien de ces communautés-là. Et ça, j'en ai déjà quelques-uns en tête qui ont commencé à le faire. Créer des espaces où l'individu peut faire partie d'une communauté. Mm-hmm. Une communauté intentionnelle qui a à cœur sa communauté locale large. Et ça me fait penser à ce que les églises faisaient avant. C'était une communauté qui se réunissait et ensuite les besoins étaient perçus et bien ouais. souvent l'implication partait de là.
Cette semaine, c'est la 50e semaine de l'Action bénévole 2024. Quelle action on peut faire pour souligner cette semaine-là?
Premièrement, moi, j'inviterais les gens à juste prendre le temps de se rendre compte dans quoi ils sont impliqués. Parce que souvent, les gens vont s'embarquer dans plein de bénévolats à gauche puis à droite sans trop s'en rendre compte. Alors, prenez un petit moment pour vous rendre compte dans quoi vous êtes impliqués et célébrer cette belle implication-là. Vous n'êtes pas obligé de juste penser à ce que vous ne faites pas. Pensez à ce que vous faites déjà, comme bénévolat, comme contribution à plus grand que soi. Ben ça, c'est un beau moment pour juste se poser et dire « Wow, dans le fond, je contribue à des choses. » Puis peut-être réfléchir à « Est-ce que c'est là où ce que je veux être? » Une petite réflexion sur soi-même. Ça peut être une belle première chose qu'on fait dans la semaine de l'action bénévole. De se rendre compte que bien souvent, on est bénévole, qu'on le sache ou non. Deuxième chose, c'est sûr qu'on peut regarder autour de nous et faire un petit peu la même chose, de constater comment, dans quoi les autres personnes sont impliquées. Toi, t'en fais-tu du bénévolat? T'es-tu impliqué dans quelque chose? Et souvent, ça va créer des belles conversations. Et pas juste pour du recrutement, c'est pas pour ouais. ça que je dis ça, mais tu sais, pour voir les belles choses que les gens y ont à cœur puis dans quoi ils contribuent. Pour moi, on peut célébrer ça ensemble. Mm. T'es dans le soccer? C'est donc bien cool, je savais même pas que tu faisais du soccer. OK, hey, ça fait un bout. Wow! Faire des belles conversations un peu plus profondes et vraiment intéressantes, ça peut être une belle opportunité pour faire ça. Et finalement, ben moi je dirais que il y a une implication sur mesure pour vous, où est-ce que vous pourrez être bien et faire du bien. Peut-être que vous êtes déjà là, et si c'est le cas, ben parfait, yes, on continue. Si vous n'avez pas l'impression d'être là, ben peut-être mener une réflexion. Quelle est l'implication qui est faite sur mesure pour moi? Peut-être que vous avez le profil de quelqu'un qui pourrait être administrateur dans un organisme, mais vous n'y avez juste pas pensé. Ou peut-être que vous voulez être coach au soccer, ou peut-être que vous voulez prendre des photos pour un organisme qui n'a pas les ressources pour avoir quelqu'un en communication. Il y a de tout, là. Il y a de tout. Alors, de regarder qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous avez à cœur de faire, qu'est-ce qui vous touche comme cause, comme type de personne que vous aimeriez vous impliquer dans ce domaine-là et contribuer à ça. Ensuite, je dirais, pour l'instant, fouiller pour un groupe, que ce soit un groupe de réseaux sociaux, un organisme. Il y a sûrement déjà quelqu'un qui est impliqué dans ce qui vous intéresse. C'est inévitable. À moins d'être l'exception, ben dans ce cas-là, partez un groupe. Mais sinon, joignez-vous à un groupe qui est déjà sur le terrain en train de s'impliquer pour cette cause-là. Et sinon, ben, si vous trouvez rien, vous pouvez toujours appeler au Centre d'action bénévole, à Convergence Action bénévole, et on va prendre le temps de discuter ensemble pour voir justement c'est quoi le bénévolat qui est fait sur mesure pour vous.
Ben, merci beaucoup, Nathan. On a appris beaucoup de choses sur le bénévolat. C'est vraiment intéressant.
Merci beaucoup. Il m'en reste encore 3 heures de contenu, fait que restez en ligne.
On te réinvite.
Ouais, c'est ça. À la prochaine fois.